L'écharde du traditionalisme. En août, un article du Figaro magazine me toucha. Il parlait du monastère bénédictin Sainte-Marie-Madeleine du Barou, à la position frontière au niveau ecclésial. Il faut savoir que mon père, ayant un véritable culte pour l'information, toutes sortes de journaux et de revues me passaient dans les mains. Ceux-ci formaient des piles respectables au sommet du buffet de la cuisine. En tant que fonctionnaire de la police judiciaire, il tenait à être le premier informé et à confronter les points de vue. Dans la pratique, il lisait souvent l'éventail déployé que peut offrir la presse en France. D'où des positions personnelles qui parfois pouvaient désarçonner, car éloignées de l'esprit de parti qui impose des œillères et oblige à canoniser les gens de son bord et à diaboliser les autres pour la réussite de la cause. À sa suite, j'ai essayé de me former ma propre opinion en écoutant chacun exprimer son point de vue sans en exclure aucun. Je ne supportais pas que des excités veuillent me dicter ce que j'avais à penser et m'interdire d'écouter quelque honnête personne à cause de ses opinions. Quand on sort de cet esprit de parti qui met tant d'œillères, on s'aperçoit que, comme lors de la déchirure d'un couple, il arrive la plupart du temps que les torts soient partagés. Bien sûr, je ne nie pas qu'il existe des personnalités destructrices, immatures et perverses, mais qui peut oser se croire absolument sans tort? Qui peut jurer qu'il a tout fait pour éviter le pire? Qui peut penser qu'il n'a pas, par ses excès ou ses carences, nourri chez autrui l'excès contraire? Touché par l'article sur les bénédictins du Barou, si jeunes et si recueillis, j'ai écrit à Don Gérard avec l'impression de commettre une transgression. Je dois dire à sa louange qu'il a répondu à l'anonyme que j'étais et qu'un échange de lettres s'était ensuivi. Pourtant, il aurait pu, comme bien d'autres, n'opposer qu'un silence méprisant à ma missive, d'autant qu'elle était rédigée d'une grosse écriture infantile. À cette époque, je me posais bien des questions au sujet du traditionalisme. Il m'attirait tout à la fois et m'inquiétait. Je n'ignorais pas que la dissidence lefévriste ne s'était pas constituée à la suite de la constitution de Vatican II sur la liturgie ou du latin, contrairement à ce que le profane imagine, mais que le nœud en était la question de la liberté religieuse. Pour ma part, deux choses me semblaient claires. Je ne pouvais admettre que l'on considère que toutes les opinions se valent, ce qui reviendrait à dire qu'il n'y a aucune gradation morale ou de concordance plus ou moins étroite avec la réalité, et je ne pouvais admettre qu'un pouvoir politique, quel qu'il soit, fasse pression sur des personnes pour les pousser à agir contre leur conscience, ce qui, du reste, ne produit que des troupeaux d'hypocrites et de lâches, et blesse en profondeur les personnes et l'inconscient collectif. Tout à fait légitime me semblait l'opinion exposée par Jean-Paul II, selon laquelle l'Église ne demande aucun privilège pour elle, juste la liberté de vivre sa foi et d'en témoigner publiquement. Témoigner à la façon du Christ exclut toute violence, tout prosélytisme excité et assourdissant, tout achat de ralliement par des cadeaux. La foi est un cadeau suffisant en soi. Les Charlemagne et consorts, qui ont voulu répandre, non sans visée économique et politique d'ailleurs, dans certaines régions nordiques la foi chrétienne par de tels moyens, ne lui ont-ils pas rendu le pire des services? Sur ce point du lien avec le pouvoir politique prétendument chrétien, je ne pouvais comprendre certains traditionalistes royalistes. Certes, Louis XVI était un saint homme, ou au moins un très honnête homme, et Louis IX un modèle de roi saint, proche des petits, et de chevaliers chrétiens. Mais n'était-ce pas deux personnes perdues au milieu d'une longue file de dépravés? La clique séculaire des rois à sérail féminin intrigant, à guerre de conquête où tout cynisme était permis au nom de la raison d'État, à cour fastueuse qui pressurait le peuple d'impôts, je la vomissais. Ces rois et ces empereurs commandataires, qui s'immisçaient dans les affaires de l'Église, se mêlant des nominations d'évêques ou de pères abbés, poste où il mettait trop souvent de jeunes libertins bien en cours, fils de duchesse au bras long, de mettre à mort des hérétiques, surtout quand le trésor royal escomptait se saisir de leurs biens, je ne vois pas en quoi ils ont servi l'Église. Leur foi me semblait bien plus déposée dans la raison d'État que dans le Christ. Et la disparition d'un tel système en tant que tel ne me semblait pas un motif de larmes. Certes, sous l'Ancien Régime, l'alliance du trône et de l'autel, ou du moins la dîme ecclésiastique ou la ferveur populaire, permettait la construction d'harmonieux bâtiments conventuels, d'hôtels-dieu pour les malades, de léproseries, d'une pléthore d'églises incontestablement splendides, ainsi que d'innombrables œuvres caritatives de proximité. Mais les rois de France, ayant pourtant promis de défendre la justice et les pauvres lors de leur sacre, ont-ils toujours fait leur possible pour le bien de leurs sujets? Limiter leurs dépenses de glorioles mondaines ou de courses au plaisir? Haïr les guerres de conquête? Réformer les abus? Chasser de la cour parasites, mauvais conseillers et flatteurs? Veiller enfin à l'intégrité des fonctionnaires face au petit peuple sans défense? J'en doute en lisant leur biographie. Bien plutôt, n'auraient-ils pas ces monarques sacrés solennellement, souvent maculé le visage de l'épouse du Christ avec leur turpitude? Qui contestera que commettre un crime au nom de Dieu constitue le pire blasphème, puisqu'on ferme aux gens la porte du royaume des cieux sans y entrer soi-même? Et combien parmi nos rois, pour ne pas parler des empereurs germaniques ou byzantins, avaient combattu contre des papes eux-mêmes, parfois à grand renfort de calomnies, de schismes, de tortures de saints personnages et d'agressions militaires, ou intriguer pour influencer le vote des cardinaux? Je pouvais comprendre que les royalistes traditionnalistes nostalgiques regrettent un certain climat anti-révolutionnaire avec ce qu'il comportait de positif, comme la multitude de signes chrétiens dans le paysage et la culture, un langage fin et structuré, une politesse exquise, l'organisation des travailleurs en corporation, certaines mœurs paysannes pétries d'évangile, où le pauvre avait sa place à table et était considéré comme une présence du Christ Dieu lui-même, une piété populaire sans complexe, un langage quotidien imprégné d'allusions chrétiennes qui n'était pas encore passé par le rouleau compresseur de la terreur. Oui, une certaine éducation chrétienne jointe à la pratique des vertus dans les lignées familiales ou des communautés villageoises avait porté des fruits dans l'Ancien Régime, et le clergé était, paraît-il, édifiant à la veille de la Révolution. Encore ne faut-il ni généraliser ni majorer la durée de cette ère idyllique. Les prédicateurs contemporains se chargeraient de nous détromper. Quand on lit leurs sermons, on a plutôt l'impression qu'ils voyaient partout le libertinage, la perte de la foi et la dissolution des mœurs. Et les cours royales et les grandes villes, comme à chaque époque, constituaient le bouillon de culture ensemencé d'oisiveté et de misère, où se développaient les bactéries des vices et des troubles. Enfin, les parlements et la noblesse de robe n'allaient guère dans le sens des valeurs évangéliques, semble-t-il. Combien n'ont-ils pas combattu la liberté de l'Église? Je ne pouvais saisir, d'ailleurs, que très chrétien soit un titre royal héréditaire. Hérite-t-on de la foi et des mœurs évangéliques comme d'une breloque mondaine? N'est-ce pas par les œuvres seulement que Dieu reconnaît ses fils? Au mieux, c'est un titre programme. « Fils de Saint-Louis », disaient de même les rois de France. Cela me rappelait le « fils d'Abraham » de l'Évangile. Or, Jésus lui-même concluait « Si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Cela, tel acte coupable, Abraham ne l'a pas fait. » Non, Dieu dans la révélation chrétienne ne tient absolument pas compte de la lignée. Il ne fait pas acception de personne, avise aux racistes et aux amateurs de caste. L'un des thèmes de fracture avec les sectateurs de Mgr Lefebvre était la question de la liberté et de son rapport avec les droits de la vérité en matière de religion. Davantage de liberté semblait compromettant pour la notion de vérité révélée, typique de la foi chrétienne, et encourager le relativisme. Pour ma part, dans le relativisme contemporain qui considère que toutes les opinions se valent, je ne vois que suicide de l'intelligence mépris abyssal pour la recherche de la vérité ainsi que pour les personnes sincères. J'ai entendu parfois certains nier toute possibilité d'accéder à une vérité par des raisonnements. Si je reconnaissais que notre raison peut être déformée par nos passions mal contrôlées ou par des informations incomplètes ou fausses, je n'avais pas perdu, moi, tout espoir en ses capacités. Du reste, dès qu'il s'agit de choses matérielles et immédiatement vérifiables, comme la conduite d'une voiture ou la gestion d'un budget, je voudrais les voir, ces relativistes, soutenir le même principe. Demandent-ils à un bambin de prendre le volant, ou confient-ils leurs finances à un artiste peintre? Pourquoi, dans ce cas, ne pas user de la même rigueur dans la poursuite d'un raisonnement? Nos actes moraux, bien que non matériels, portent eux aussi leurs conséquences, humaines, psychologiques, spirituelles. Il n'y a pas que le chiffrable qui existe. Et encore, même les soins de santé, ou l'aide sociale nécessaire après tel ou tel acte moral lié à la vie et à la famille, peuvent-ils être estimés matériellement? Par exemple, le travail de la femme au foyer qui choisit d'élever ses enfants n'est pas pris en compte, comme s'il s'agissait d'une option pour le farniente. Pourtant, quand un enfant est à la rue faute de présence parentale aimante et d'éducation, le coût n'en est pas négligeable pour la société. Vol, vandalisme, bagarre, agression, drogue, prison, dépression, chômage, suicide, non-création de famille et non-renouvellement des générations. Tout cela n'a-t-il pas un coût exorbitant? Et comme une pierre jetée dans l'eau, ne se dilate-t-il pas en d'innombrables dégâts collatéraux? Pour revenir aux traditionalistes, j'aimais leur respect des richesses théologiques et liturgiques de la tradition de l'Église. Comment jeter comme des ignares les trésors accumulés par la réflexion de nos ancêtres et notamment des plus saints? Comment mépriser toute une symbolique très riche et rester à la surface des choses sous prétexte de simplification? Comment brûler allègrement et condamner une liturgie considérée avant-hier comme l'expression même du rite le plus sacré? Comment risquer un instant de perdre irrémédiablement des traditions héritées pour certaines des apôtres? Comment aussi tolérer la protestantisation de fêtes opérée au nom du Concile et bien malgré lui, au mépris des textes de celui-ci et de la sensibilité profondément blessée des petits? Oui. Le peuple des humbles aime et honore la Vierge Marie, sa mère. Quoi de plus naturel et de plus louable au vu du décalogue donné par Dieu lui-même? Il aime les saints, ses frères et sœurs témoins du Christ, si compatissants aux malheureux, vers qui il a toujours accouru. Ce sont les vivants du royaume céleste, car leur Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il aime les pèlerinages, signes et mise en marche de l'itinéraire chaotique de notre existence. Tout cela le mène plus souvent au Père Céleste, semblerait-il, dans l'attitude humble du mendiant qui crie, que les ouvrages confus et secs de certains théologiens élitistes. Rejoindre le peuple? Oui. Les saints ont toujours eu l'art de le faire, mais c'était pour le mener plus loin. Simplifier? Oui. Tout ce qui surcharge, épuise l'énergie et fait perdre de vue la direction. Mais attention, comme disent les Suisses, à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par contre, j'avoue que certaines choses ne m'attiraient pas chez les intégristes. Pourquoi tant de raideur corporelle si souvent? Un air guindé et contracté, trahissant un défaut d'incarnation. La dignité ne peut-elle pas se conjuguer avec la souplesse et le naturel? Jésus-Christ, le charpentier, n'est-il pas venu apprendre aux hommes à être pleinement hommes? Oui, sorti des mains aimantes du Dieu artiste, notre corps est une bénédiction, une réalité très bonne, de même que l'union de l'homme et de la femme, mystère terrestre, image créée, où Dieu veut contempler son propre mystère éternel. Jean-Paul II devait admirablement développer cela dans ses catéchèses sur la sexualité et l'amour humain dans le plan divin. Des mitres baroques interminablement pointues, vrais accessoires de théâtre grandiloquents et pompeux, des chasubles cartonnées et amidonnées à souhait, des dentelles dont la superficie semble enlever autant à la masculinité du prêtre, des ornements fleuris qui tiennent plus de l'ouvrage de tapisserie que des scènes de l'Évangile, une mode laïque pétrifiée dans les années 1930. Voilà aussi ce qui, dans le traditionalisme, me prenait à rebrousse-poil. Ce sont des détails tout extérieurs, il est vrai, et je suppose que plus d'un intégriste a dû déployer beaucoup d'humilité, d'obéissance et d'intériorité pour accepter de se voir aussi ridiculement affublé. Ils me font penser à ces religieuses que l'obéissance monastique gratifie un jour d'une robe trop serrée où leur forme débordante se boudine, ou d'un habit en forme de cloche rigide d'où ne sortent, en guise de battant, que deux mollets trop étroits, sans oublier les voiles qui glissent en permanence, laissant échapper des mèches aussi aplaties qu'inesthétiques. De fait, il me semble que l'on touche, à travers ces détails visibles, le problème d'une pétrification du temps, d'une canonisation abusive d'une époque révolue, aussi riche soit-elle, empêchant d'ailleurs de puiser à des sources antérieures, plus proches du Christ, bibliques, apostoliques ou patristiques, les éléments qui seraient plus adaptés à la sanctification de nos contemporains et à une liturgie sagement inculturée. Rien n'empêche, en effet, que les apôtres n'aient eu des signes visibles de leur autorité. Un habit liturgique, par exemple, une chaire artistiquement ouvragée à la juive. Elle serait gardée en relique sous la chaire du Bernin, d'après la gravure d'un vieux livre lu autrefois. Une mitre comme les évêques orientaux, un bandeau de métal orné d'une parole biblique, ou même quelques représentations de la croix et autres serpents d'airain de Moïse. Puisque les archéologues trouvent des choses étonnantes à ce sujet dans le judéo-christianisme. Mais Saint-Pierre n'avait, c'est certain, ni tiare triple, ni gants brodés, ni flabellum en plume d'autruche. De même, les apôtres n'étaient-ils ni dentelés, ni amidonnés, et qu'il me soit permis de penser qu'ils n'ont rien perdu au change. Le Concile Vatican II recommandait une noble simplicité. C'est un bon choix pour qui veut éviter le ridicule de la surcharge. À l'attention des partisans de la position opposée, noble simplicité ne veut pas dire absence de signes visibles. Nous ne sommes pas de purs esprits. N'appréhendons-nous pas le réel, y compris les réalités spirituelles, à travers nos cinq sens et les métaphores ou symboles qu'offrent à tous égards la création de Dieu et les réalisations humaines? Et ce que le Père a créé est bon et beau, même l'encens ou les pierres précieuses. Tout doit servir à sa gloire. N'est-ce pas la moindre des choses et une question de justice? Bien sûr, les iconoclastes qui se sont déchaînés après le Concile soulevaient parfois de réels problèmes au sujet d'abus qui s'étaient glissés dans la pratique et les avaient eux-mêmes blessés en les entraînant dans l'excès opposé. Je comprenais bien qu'il n'avait pas tort sur toute la ligne. Dans chaque culture, il existe des personnes pratiquant des rites extérieurs sans pureté d'intention, en s'imaginant manipuler le Créateur. Le cœur humain est compliqué et malade, relevait déjà le psalmiste. Quant au schisme lui-même, c'est un problème qui touchait à l'intime des consciences. Pour faire bref, les lefévristes ont choisi la dissidence et l'excommunication tout en sachant que le successeur de Pierre détient l'autorité légitime venue du Christ. Ils l'ont fait dans l'espoir que par ce biais, l'Église survivrait, car à leurs yeux, elle était agonisante dans ce qu'ils pouvaient en observer. Identité sacerdotale, séminaire, vocation religieuse, dépôt de la foi, messe selon l'ancien rite, œcuménisme vécu parfois, ou compris par les masses, comme une relativisation de la vérité du Christ Dieu Sauveur unique et de son Église. Cela présuppose un écartèlement de tous les instants, incroyablement douloureux, et un constat tragique accompagné de blessures profondes. Ceci je le respecte infiniment. Dans mon enfance, je supposais naïvement qu'être catholique signifiait que l'on se rangeait sans réflexion à tous les avis d'une majorité d'évêques d'un pays donné. La réalité est plus complexe. En effet, s'en écarter peut relever en effet d'une inconscience orgueilleuse et il ne faut pas se l'autoriser sans une raison prévalente, dûment examinée devant Dieu et à la lumière de l'enseignement de l'Église. Bien sûr, si un évêque contredit le pape, engageant son autorité de successeur de Pierre en matière de foi ou de mœurs chrétiennes, c'est évidemment le pape qui prévaut, et l'évêque perd par sa rébellion son autorité d'enseignement. Mais j'ai appris qu'à l'époque où l'hérésie arienne faisait rage, c'est l'immense majorité des évêques catholiques qui y avaient cédé et l'enseignaient, avec d'ailleurs l'appui du pouvoir politique, ce qui explique peut-être des choses. Saint Athanase était presque seul contre tous. De même, quand l'Angleterre sous Henri VIII a abandonné le catholicisme pour l'anglicanisme, où est l'opposition des évêques anglais? On parle de la décapitation du laïc Thomas More, du cardinal évêque de Rochester, Saint John Fisher, des tortures atroces endurées par les chartreux de Londres et autres moines, de prêtres anglais suppliciés. Mais que sont les autres prélats devenus avec leurs crosses et leurs mitres? Je crains de le deviner. Je suppose que leur soumission sans condition au schisme d'Henri VIII leur a permis de continuer à respirer les roses de leur jardin au milieu de leur nombreuse domesticité et de goûter les fins mets de la cour. Ils devaient penser que les chartreux qui se faisaient éviscérer au même moment à Londres étaient des fanatiques indécrottables. Pour revenir aux catholiques intégristes, comment aussi rendre compte des blessures peut-être inguérissables infligées à ceux qui ont vu l'époque post-conciliaire piétiner avec jubilation ce qui était le plus saint dans la foi de l'Église, faute d'en avoir saisi le sens profond. Du scandale des petits et des fidèles devant les profanations crétines. Ces tabernacles vendus et finissant comme niches de chiens. Ces saintes reliques jetées avec mépris. Mépris pour les saints, et aussi mépris pour ces chrétiens, nos frères d'autrefois, qui avec tant d'amour ont gardé pendant des siècles, en une chaîne ininterrompue jusque-là, des restes corporels plus précieux que l'or et des gemmes des reliquaires ciselés où il les renfermait car vecteurs de l'Esprit-Saint qui repose sur les élus de Dieu. Les reliquaires finissaient chez des amateurs d'art fortunés. Les ornements sacerdotaux brodés dans la prière étaient donnés aux souris et aux brocanteurs, à destination d'on ne sait quel culte satanique. Les confessionnaux étaient bloqués par des piles de chaises. Les vases sacrés et les ostensoires, vendus sans scrupule à pleine pelletée, procuraient de l'argent, le corps et le sang du Christ n'ayant plus droit qu'à la terre cuite désormais, semble-t-il. Tout ceci sans réflexion approfondie et avec une inculture consternante, en une époque de chaos et d'obscurité, où tout ce qui était debout semblait avoir vocation à être renversé. Les intégristes ont des centaines de questions à soulever sur les mutations liturgiques. Comment ne pas comprendre qu'en imposant brutalement, sans explication suffisante, en tout cas dans plusieurs pays dont la France, une nouvelle façon de célébrer l'Eucharistie, le peuple chrétien le plus fervent se soit senti infantilisé et choqué. À tout le moins, même si le magistère a reçu autorité du Christ en matière de liturgie, la façon dont les changements ont été imposés manquait-elle en général de pédagogie ? Héritage peut-être d'une époque où les enfants n'avaient qu'à obéir sans comprendre. Interdiction d'exprimer leurs émotions et leur incompréhension. Violence faite aux âmes. Comment donc s'étonner que certains chrétiens aient eu l'impression dans cette rage qui se déchaînait que le prince des ténèbres se donnait libre cours et qu'il voulait abolir le sacrifice perpétuel de la messe, le sacrifice saint dont il mesurait mieux que nous la puissance. En tout cas, qui oserait prétendre que le sens du sacré, le respect, l'adoration, la dignité et le silence de l'intériorité est gagné dans les célébrations désormais pratiquées en paroisse. Quant à la charité fraternelle, il n'est pas sûr que les bisous sonores et les tapes dans le dos, assénés en dehors de toute connaissance profonde des personnes et sans leur aval, aient toujours fait grandir le sentiment d'être compris et respecté. il est bon de noter qu'il existe des communions profondes qui passent dans le silence et dans un simple échange de regards. Les vieux couples et les amoureux en savent quelque chose. Quant aux poignées de main au moment du baiser de paix rituel du célébrant, elles gagneraient sans doute en vraisemblance si ceux qui les échangent daignaient systématiquement se regarder dans les yeux et revêtir le geste d'une certaine lenteur liturgique. Bien sûr, la volonté du Concile en la matière était louable. Revenir aux sources, bibliques, patristiques, éviter les surcharges dont les siècles sont friands et qui finissent par affaiblir ce qui est central. Mais encore fallait-il réaliser cette reconstruction avec discernement et intelligence. Beauté, poésie et sacré ne se traitent pas au bulldozer. Soit, les redites sont déconseillées dans la nouvelle liturgie. Mais cela visait-il jusqu'à la répétition ternaire de la formule « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » ? Je vois qu'en certaines paroisses, cette répétition même est mutilée au nom de la concision sans doute, ou du rôti de la ménagère qui est en train de cuire. Oublie-t-on que notre cœur de pierre a un besoin pédagogique de certaines répétitions pour se laisser entamer? Ira-t-on jusqu'à censurer la répétition également ternaire de saints, formule d'adoration pourtant tirée de la Bible elle-même? Désire-t-on enfin bannir toute poésie, toute beauté de langage, tout art et toute profondeur mystique au profit d'un discours d'une platitude consternante, visant un peuple considéré comme fondamentalement incapable de comprendre et de s'élever? Quel mépris! Quel fatalisme! Où est la notion d'éducation? Veut-on bannir de l'Église dite latine toute pratique séculaire de tradition seulement orale? Pratique de tradition apostolique peut-être? Qui sait parfois? Nous manquons de tant de documents disparus au cours des persécutions romaines ou de troubles divers, et d'autres nous sont parvenus mutilés. Les autres églises apostoliques, coptes, syriaques, arméniens, éthiopiens, chaldéens, etc., n'agissent pas avec une telle légèreté, ne semblant pas avoir cette manie de la mise à plat et cette démangeaison de la nouveauté, pour paraphraser saint Paul. Ainsi, en matière de réalités humaines, les choses étaient-elles incroyablement plus subtiles qu'à première vue, et beaucoup devaient se tromper en croyant bien faire. J'en étais troublé. Que désirait Jésus, notre grand prêtre? Et qui lui était fidèle dans ce chaos? Pour ma part, n'ayant pas de problème avec le Concile Vatican de lui-même, je désirais ardemment que les célébrations eucharistiques nous donnent au moins, et au-delà des querelles de rites, toutes crues tirées des missels autorisées, la liturgie, rien que la liturgie, toute la liturgie. Le peuple fidèle y a pleinement droit. Ô Dieu, est-ce un rêve inaccessible ?